Oui, est-ce que ça me... Voilà, j'ai tourné le bouton dans le bon sens, voilà. Il faut toujours tourner le bouton dans le bon sens. Je venais de publier un roman qui était mon deuxième roman. Je n'avais pas d'attente spéciale et même j'étais assez sceptique par rapport au succès de ce roman parce que c'était le deuxième roman que je publiais en 10 ans. J'avais pas eu le temps de publier un roman avant, puis j'avais mis beaucoup de temps à écrire le deuxième. Ça s'appelait donc La maladie de Saxe. Et j'avais reçu le livre au mois de décembre. Le livre était prévu pour sortir en janvier. En France, il y a deux périodes de sortie littéraire. C'est la période de la rentrée, hein, août, septembre, un petit peu octobre. Et puis janvier-février, où il y a une sorte de deuxième rentrée, où les prix sont passés, où il y a... Quand je reçois le bouquin, avant la sortie du bouquin, je reçois le bouquin, je me dis, personne ne va lire ça. C'était un gros livre, il faisait 500 pages. Je le trouvais un peu déprimant sur les bords. Bon. Le livre sort et il se vend un petit peu. Le bouche à oreille. Et puis, il y a eu de bons articles dans quelques revues. Et au mois de mars ou avril, donc le livre sort en janvier, au mois de mars-avril, je reçois un coup de téléphone de la personne qui était chargée des droits annexes chez POL, qui s'appelait Frédéric Maria à l'époque. Et Frédéric Maria me dit j'ai une question à vous poser. Michel Deville, le cinéaste, voudrait adapter votre roman au cinéma. Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors j'ouvre des grands yeux comme ça, il ne les voit pas évidemment parce qu'on était au téléphone. Je lui dis « le Michel Deville ». Il me dit « ah bon, vous connaissez ?» Ah, je dis « bah oui, je suis un type qui va au cinéma. Michel Deville, c'est un cinéaste qui a commencé à faire des films dans les années 60, qui a fait beaucoup de films, qui a fait des films tout à fait intéressants, très personnels. Il alterne entre des adaptations de romans et des scénarios originaux qu'il écrit. Et il a fait vraiment des films vraiment intéressants. C'est un cinéaste moins connu que Truffaut, Chabrol, etc., ou Romer en France, mais de la même qualité et avec des films tout à fait aussi intéressants. Alors il me dit, oui, mais est-ce qu'il arrivera à adapter La maladie de Saxe ? La maladie de Saxe est un roman qui est un roman polyphonique dans lequel... tous les patients et l'environnement et les amis et la secrétaire et la mère du docteur Saxe parlent du docteur Saxe. Donc c'est plusieurs voix qui racontent l'histoire. Il me dit, est-ce que vous croyez qu'il va savoir adapter ça ? Alors je dis, bah écoutez, il a adapté un roman inadaptable qui s'appelle Le dossier 51, qui est un roman de Gilles Perrault qui est la reconstitution, en fait, de l'opération d'infiltration d'un diplomate français pour un service secret d'un pays non identifié, mais qui est peut-être l'Union soviétique ou peut-être l'Allemagne de l'Est. Et l'idée, c'est qu'il faut infiltrer, il faut créer une sorte de lien un peu personnel avec ce diplomate de façon à le faire, à le manipuler. Et ce roman, Le dossier 51, se présente uniquement comme des retranscriptions de discussions entre les gens qui veulent manipuler le diplomate, des transcriptions de dossiers d'écoute, des courriers qui ont été interceptés, des rapports de filature, etc. C'est pas un roman dialogué, c'est pas un roman dans lequel il y a de l'action à proprement, c'est que les pièces d'un dossier. C'est passionnant à lire, mais on se dit, c'est pas possible à adapter à l'écran. Or, Michel Deville, moi j'ai vu le film, j'ai lu le roman, et puis ensuite j'ai vu le film, Michel Deville l'a adapté avec des acteurs, et il l'a adapté de façon tout à fait remarquable. Il en a fait un film passionnant. Je dis donc, s'il est capable d'adapter le dossier 51 qui était vraiment inadaptable, il est capable d'adapter La maladie de Saxe. Il me dit bon. Et il me dit, je vais vous mettre en contact avec lui, parce que quand même, il faut que vous le voyez. Parce que chez POL, on a pour principe que quand, euh, quand un cinéaste veut adapter un livre, il faut que, en principe, l'éditeur a le droit de le dire, de dire oui tout seul. Mais ils prennent toujours la précaution de demander à l'auteur s'il est d'accord. Parce que si l'auteur n'est pas d'accord, même si l'éditeur a, au sens strict du terme, a le droit de négocier les droits, puisque l'auteur lui a confié ses droits, il ne le fait pas. Si l'auteur ne veut pas, il ne le fait pas. Donc il me dit, on va vous mettre en contact avec lui, vous allez décider. Et donc j'ai une première conversation téléphonique avec Michel Deville, qui est un monsieur maintenant qui doit avoir pas loin de 80 ans, qui donc à l'époque en avait 70, et qui, presque 70, et qui est un monsieur charmant, absolument charmant, extrêmement subtil, extrêmement calme, extrêmement posé, et qui m'explique que, une fois sur deux, donc, il écrit un scénario original, puis une fois sur deux, il adapte un roman. Il a lu mon roman après avoir entendu parler du roman dans un article qui était paru, un article assez discret, qui était paru dans une revue qui s'appelait Le Magazine Littéraire, mais qui était un article tout à fait élogieux sur le livre. Et il est allé acheter le livre, et il l'a lu, et puis à l'arrivée à la moitié du livre, sa femme, qui est aussi sa productrice et sa co-scénariste, lui a dit « Est-ce que c'est ton prochain film ?» Il a dit « Je ne sais pas encore », puis il a fini le livre et il lui a dit « C'est mon prochain film. » Dis-moi, ce que j'aime dans cette histoire, c'est que c'est l'histoire d'un médecin de famille. Je n'ai jamais vu de film qui parlait d'un médecin de famille comme ça, donc ça me tente d'essayer de faire le premier film, en français en tout cas, qui parle d'un médecin de famille. Et puis, il y a beaucoup d'histoires dans le livre, évidemment, je ne vais pas tout garder parce que ce n'est pas possible de tout garder, ou alors il faut faire une télésérie. Mais ça m'intéresse, et puis cette relation avec que le personnage central a avec cette femme qu'il rencontre dans des circonstances un peu plus que romanesques, ça m'intéresse aussi. Il faut savoir que Michel Deville fait des films qui sont souvent des films avec soit une histoire d'amour, soit des relations de couple, ou des relations amoureuses un peu bizarres. Alors c'est soit du marivaudage, soit un peu quirky, un peu bizarre. Bon. Et c'est un grand directeur d'acteurs. Il utilise toujours des très bons acteurs, sauf Isabelle Huppert, que moi personnellement je trouve incolore, inodoré, sans saveur, mais c'est son droit. Et il les fait jouer très très bien. Bon. Alors il me dit j'aimerais, donc si vous êtes d'accord, j'aimerais adapter votre livre. Alors je lui dis oui, d'accord, bien sûr, bien sûr, monsieur. Moi, il y en a être un de vos spectateurs, moi heureux, content, bien sûr. Mon livre. Il faut rappeler que là, le livre, il était inconnu, c'est-à-dire il s'en était vendu peut-être 5000 exemplaires, ce qui est déjà bien, mais qui n'était pas beaucoup, et on avait parlé un peu dans la presse, mais ce n'était pas du tout un best-seller. Et il me dit, j'ai déjà commencé à travailler sur le scénario. Je dis, bon, d'accord. Il me dit, et puis je finis le scénario, je vous l'envoie, et puis s'il y a des trucs qui vous plaisent pas, vous me le dites. Je dis, écoutez, moi, je ne suis pas scénariste, je ne sais pas comment on écrit un scénario, donc je ne vais sûrement pas me permettre de vous dire comment vous devez écrire votre film. Si je vous dis, adaptez le livre et faites un film, bien sûr, je m'attends à ce que vous fassiez un film personnel. Et j'ajoute, je suis un grand cinéphile, j'ai lu beaucoup de romans et j'ai vu leur adaptation au cinéma. Le roman et le cinéma, c'est deux choses complètement différentes. J'ai jamais imaginé qu'il fallait... Alors, de temps en temps, il y a des adaptations cinématographiques qui sont très fidèles au livre. Puis, de temps en temps, il y a des adaptations cinématographiques qui sont très éloignées du livre pour telle et telle raison, parce qu'on a pris une partie du livre, on en a fait quelque chose qui n'était pas forcément prééminent. Il n'y a rien de plus compliqué à faire. Moi, je pense que les adaptations les plus réussies, c'est les films les plus personnels. Ce n'est pas forcément les films qui ressemblent le plus aux romans dont ils sont tirés. Il y a même d'excellents films qui sont faits à partir de nouvelles absolument inconnues. En particulier dans le cinéma américain, les Américains, ils achètent les droits de telle et telle nouvelle, et puis ils adaptent un bout de la nouvelle. L'exemple le plus le plus célèbre dans le cinéma américain, c'est Howard Hawks et Hemingway. Et Hawks et Hemingway étaient buddies, ils picolaient, ils chassaient ensemble. Et un jour, Hawks lui dit, je suis capable de faire un très bon film avec le truc le plus pourri que t'aies jamais écrit. Alors Hemingway lui dit chiche, lui dit bah d'accord, bah envoie-le-moi, et puis lui envoie un truc qui s'appelle To Have and Have Not, qui est un roman qui tient pas debout, qui est pas très bon, etc., qu'il a écrit un jour parce qu'il avait besoin d'argent, et Hawks le prend et il en fait To Have and Have Not, en français le port de l'angoisse, très mauvais titre, mais en français comme ça, avec, qui est le premier film avec Humphrey Bogart et Lauren Bacall, et qui est un film excellent, mais qui est très différent de l'histoire de Hemingway, et c'est un grand classique du cinéma. Donc je dis, bon, moi j'ai pas peur. Si ça avait été un jeune cinéaste débutant dont je ne connaisse pas la carrière, ou dont c'était le premier film par exemple, là j'aurais pu avoir des réserves, parce que j'aurais pu me demander ben, qu'est-ce qu'il va faire de mon roman. Mais là, Michel Deville, qui a 20 films derrière lui, dont plusieurs films tout à fait remarquables, Le Paltoquet, Péril en la demeure, enfin, etc. De très très bons films que j'ai beaucoup aimés. Je me dis, il ne peut pas faire mal avec ça. Donc il me remercie, et puis il finit son scénario, et puis il envoie le scénario, je reçois le scénario, qui est une sorte de manuscrit, vous savez, avec une reliure, comment dire, hélicoïdale. Et je reçois ce scénario et je n'ose pas l'ouvrir. J'arrive pas à l'ouvrir. Et ma compagne me dit, mais est-ce que, bon, si vous n'arrivez pas à l'ouvrir, est-ce que vous me permettez de le lire, moi? Alors j'ai dit, oui, lisez-le, puis vous allez me dire ce que vous pensez. Et elle lit le scénario, et puis elle se tourne vers moi et elle me dit... Il faut le lire comme une lettre de lecteur. Je commençais déjà à recevoir des lettres de lecteur pour La maladie de Sachs, et j'avais des lettres tout à fait... À l'époque, les gens écrivaient encore sur papier, ils n'écrivaient pas que sur courriel en France. Maintenant, j'ai reçu une lettre pour mon dernier roman qui était écrite à la main par une dame qui est en train de perdre la vue. C'était très émouvant parce qu'il y a des lignes qui se chevauchent et qu'elle me dit qu'elle a lu mon roman avec une loupe. Mais à l'époque, c'était plutôt plus courant que les gens m'écrivent à la main ou à la machine, plutôt que de m'écrire par courriel, évidemment. C'était en 98. Et j'en avais reçu déjà un certain nombre. Elle me dit, voilà, lisez ça comme une lettre de lecteur. Donc j'ouvre le scénario et je le lis comme une lettre de lecteur. Et effectivement, je me rends compte que c'est la lecture que Michel Deville a faite du roman. Et essentiellement, ce qu'il a fait, c'est qu'il a rééquilibré, hein, La maladie de Sachs, c'est en fait, on voit assez peu, on entend assez peu Bruno Sachs pendant tout le roman, c'est tout le monde parle de lui, et de ce qu'il dit, de ce qu'il fait, mais on ne l'entend pas, lui, on ne l'entend pas vraiment ni dire des choses très profondes, ni penser, sauf à deux ou trois reprises, il y a des chapitres dans lesquels il s'exprime, parce que c'est, il écrit, mais il est plutôt vu en ombre chinoise. Donc là, évidemment, il le montre, mais il le montre quand même vu par plein de gens, il montre plein de gens parlant de lui, parlant des relations qu'ils ont avec lui. Mais surtout, ce qu'il a fait, c'est qu'il a gardé un certain nombre de moments choisis dans le roman, parce qu'il y a 350 histoires, il y a 113 chapitres avec énormément de personnages. Il y en a qu'il n'a pas gardé. Et il y a plusieurs histoires qui sont centrales dans le roman. Il y en a certaines qu'il a gardées, d'autres pas. Mais il a gardé, il a complété, disons, il a étoffé la relation que Bruno Sachs établit avec une de ses patientes, enfin une femme, qu'il rencontre dans le centre d'interruption de grossesse où il pratique des avortements, et sur qui il pratique un avortement, et avec qui il va finalement se lier et qui va devenir sa compagne. Et c'est raconté en filigrane de façon très distante dans le roman, alors que lui, il montre la relation. C'est-à-dire qu'ils ont écrit des scènes qui n'existent pas dans le livre, pour montrer comment la relation s'établit. Alors évidemment, c'est très, pour moi, c'est très surprenant et émouvant, parce que là, je vois apparaître à l'intérieur du scénario des choses que moi, je n'ai pas mises dans le roman, mais qui complètent, qui sont non dites, mais que j'aurais pu écrire. Et il y a autre chose qui me surprend aussi beaucoup quand je lis le scénario, c'est qu'il y a des pans de dialogue entiers de mon livre qui se retrouvent dans le scénario. Alors bon, je le revois et je lui dis, mais pourquoi vous avez gardé... Enfin, j'étais étonné de voir que les dialogues sont, par moments, sont pratiquement comme les dialogues du livre. Il me dit, bah oui, mais vos dialogues, ils étaient parfaits, j'allais pas les changer. Là, il me fait prendre conscience de quelque chose, c'est que moi, j'écris de façon très orale et très dialoguée, et j'essaye d'écrire des dialogues qui ressemblent aux dialogues qu'on dit vraiment dans la vie, mais en tout cas, des dialogues qui vont très vite, des dialogues qui fusent, des dialogues qui sont en fait plus cinématographiques que réalistes. Alors du coup, évidemment, comme mes dialogues sont très cinématographiques parce qu'ils vont très vite, qui sont très inspirés par les dialogues de films que je regarde, c'est-à-dire les films américains essentiellement. Je vous mentionnais Howard Hawks tout à l'heure. Hawks est un des cinéastes américains classiques dans lesquels il y a le plus de dialogues avec beaucoup d'esprit. Et c'est Hawks en particulier qui a introduit quelque chose qui se voit dans tous les films maintenant. C'est le fait que les dialogues se chevauchent, c'est-à-dire quelqu'un commence à parler, puis l'autre, il lui répond avant qu'il ait fini de parler. Alors ça, c'est maintenant, c'est monnaie courante, c'est tout le temps comme ça, mais avant les films de Hawks et en particulier les films de ce qu'on appelle la screwball comedy des années 30, la fin des années 30, début des années 40, on ne faisait pas ça. Chacun des acteurs finissait son texte et les autres répondaient avant, et il n'y avait jamais d'interruption. Quand quelqu'un était interrompu, c'était considéré comme brutal. Alors que lui, en particulier dans His Girl Friday, avec Cary Grant, ou bien dans Bringing Up Baby, avec Cary Grant et Catherine Hepburn, il introduit ces dialogues où tout le monde parle en même temps et qui vont très vite. Mais je me suis beaucoup inspiré de ça pour écrire mes dialogues de roman. Donc il reprend les dialogues, Michel Deville reprend les dialogues et les met comme ça dans le film. Et... Donc il m'appelle, il me dit, qu'est-ce que vous en pensez? Alors je lui dis, ben, moi je trouve ça très bien, j'ai hâte de voir quand vous allez tourner le film. Il me dit, vous êtes sûr? Vous voulez pas que je change quoi que ce soit? Je lui dis, non, vous changez rien. Enfin, si vous voulez changer, vous changez, c'est vous le cinéaste, mais moi, je ne tiens pas à ce que vous changez quoi que ce soit, c'est parfait. Il introduit aussi quelque chose d'autre, c'est le fait que bon, dans le roman, Bruno Sachs écrit, mais... il n'y a que le lecteur, pratiquement, et un peu Pauline, qui est la femme avec qui il se lit, qui sait qu'il écrit. Ce n'est pas quelque chose qui est premier dans le roman. C'est quelque chose qui n'apparaît que petit à petit et qui a un statut, un peu secondaire dans la narration. C'est important pour comprendre qui c'est, mais c'est un peu secondaire. Et là, il va introduire ça, il introduit ça de façon plus importante, en fait, dans le film, au point que ça se termine sur Pauline finissant de lire le manuscrit que Bruno vient d'écrire. Et il y a... C'est aussi une métaphore, enfin moi je vois là-dedans, dans la relation entre Pauline et Bruno dans le film, je vois une métaphore, une transposition de la relation entre Michel Deville et sa femme Rosalinde, parce que à la fin, quand elle finit de lire le manuscrit de Bruno, elle lui dit, est-ce que c'est un... Je ne sais plus comment elle lui dit, si c'est un roman... une autobiographie ou un roman, il lui dit c'est un roman, et on entend aussi c'est un film, enfin quelque chose comme ça. Il y a une transposition, il y a un parallélisme entre la fin de la lecture du manuscrit et dire c'est un roman, et la fin de la lecture du livre et dire c'est un film. Enfin. Donc c'est très émouvant de voir le film quand on sait comment ça s'est passé. Et puis, donc là on est en avril ou en mai. Et puis, au début du mois de mai 1998, La Maladie de Sachs reçoit un prix qui s'appelle le Livre Inter. Et le Livre Inter, c'est un prix qui est remis par 24 lecteurs qui sont des auditeurs de la station nationale France Inter, qui est la grande station de radio nationale, qui se réunissent pendant un dimanche. Ils ont lu tous 10 bouquins qui ont été sélectionnés par 35 critiques français, dont la liste est soigneusement cachée, de façon à ce qu'ils ne subissent pas d'influence. Et ils se réunissent dans une salle où ils sont donc 24, un homme et une femme de chaque région de France, avec un président qui est un écrivain, en général un écrivain très connu, et puis le lauréat de l'année précédente, qui lui aussi est juré. Et le président à voix double, comme ça, s'il y a une égalité, c'est lui qui tranche. Cette année-là, le président du jury, c'est Daniel Pénac. Daniel Pénac est un écrivain immensément populaire en France et très très connu aussi au Québec. C'est un écrivain qui aime beaucoup la lecture, qui aime beaucoup le cinéma, qui aime beaucoup le roman policier. C'est un type comme je les aime. Et Daniel Pénac, il a reçu le livre Inter quelques années avant, et France Inter veut depuis longtemps faire de lui le président du livre Inter de l'année. Et il a toujours refusé. Puis une année, il décide d'accepter. Il dit, mais à une condition, je serai le président du jury, mais je ne voterai pas. Alors, on lui dit, d'accord, mais pourquoi? Il dit, parce que ce sera vraiment un prix décerné par des lecteurs. Moi, je ne suis pas un lecteur standard. Je ne veux pas imposer mes vues aux lecteurs du jury, donc je ne voterai pas. Et je peux vous raconter ce qui s'est passé pendant les débats, parce que je n'y étais pas, mais à l'époque, ils le font toujours, la radio enregistrait les débats intégralement et donnait les cassettes aux membres du jury. Et l'une des membres du jury, qui était extrêmement, en faveur de mon livre, m'a dit, si vous voulez, je vous donne les cassettes, je vous fais une copie des cassettes, comme ça vous lirez, vous écouterez les débats. Donc j'ai assisté en différé au débat. Alors les débats, je vais vous faire quelque chose de très immodeste, mais ça me fait très plaisir et j'en ai bien besoin en ce moment. Je vais vous raconter les débats. Et les débats, c'est la chose suivante, à peu près. Pénac accueille les 24 jurés et puis il leur dit, bon, on va faire un tour de table pour que vous nous disiez, dans la liste des 10 romans, il y avait des écrivains de grande valeur, il y avait François Villergance, il y avait François Bon, il y avait, j'en oublie deux ou trois. Puis il y avait des gens moins connus comme moi. Il dit, parmi les 10 romans, quels sont les 3 que vous avez retenus pour qu'on débatte sur les romans Et ils passent tous, les uns après les autres, et tout le monde dit... tel roman et la maladie de Saxe. Tel roman et la maladie de Saxe. Tous. Et il y en a même une qui dit, moi j'ai 3 livres, c'est la maladie de Saxe, la maladie de Saxe et la maladie de Saxe. Bon, c'est la fameuse lectrice qui m'a fait écouter les cassettes après. Il y avait 2 ou 3 comme ça, mais elle y était allée encore plus franco. Et alors Pénac qui dit, bon, on va pas voter tout de suite alors. Et là, petit retour en arrière. Un mois et demi avant le livre Inter, le livre a déjà été sélectionné. Donc on sait qu'il est sélectionné depuis le mois de janvier avec les 9 autres. On sait qu'il est sur la liste. On nous a invité tous les écrivains à France Inter à raconter, à parler du bouquin, etc. Bon. Mon éditeur reçoit de Daniel Pénac une lettre dans laquelle il dit en gros, et il me l'a re-raconté après, il dit, en gros, voilà, j'ai reçu les 10 bouquins, parce qu'il fallait que je les lise comme tout le monde, et je me suis dit, bon, je vais me débarrasser du plus gros. Donc j'ai commencé par le plus gros. Malheureusement, après avoir lu le plus gros, je me demande comment les autres, ils vont pouvoir me faire la même chose que ce que j'ai ressenti en lisant ce gros bouquin. Et heureusement que je ne vote pas. Parce que si je votais... j'essaierai de vendre ce bouquin à tout le monde. Il dit, je suis très heureux parce que j'aime beaucoup ce livre, je le préfère au vôtre et je ne vais pas voter. Et il envoie la lettre à l'éditeur. Et l'éditeur, sous le sceau du secret, me dit, je te fais lire cette lettre, mais tu n'es pas censé l'avoir lue. Donc je lis la lettre dans laquelle le président du jury, qui a dit qu'il ne voterait pas et qu'il ne votera pas, me dit « c'est votre bouquin que je préfère, mais de toute façon, je ne vais pas voter ». Ce qui est quand même, bon, ce qui est quand même pas rien. Et puis donc les débats ont lieu, ils débattent à plusieurs reprises. Bon, c'est peut-être c'est pas tout à fait juste quand je dis qu'ils étaient tous, ils avaient tous la maladie de Sachs dans leur trio, parce qu'il y en avait quelques-uns qui ne l'avaient pas. Mais enfin, il y avait une majorité de lecteurs qui avaient la maladie de Sachs dans son trio. Et puis ils votent une première fois, ils rediscutent, ils votent une deuxième fois, ils m'attribuent le prix. Et à partir de ce moment-là, ça devient une sorte de d'ouragan. Mais pas de, mais c'est pas Sandy ou Katrina, c'est plutôt le truc qui emmène Dorothy chez le magicien d'Oz, vous voyez. Et c'est la The Yellow Brick Road. C'est-à-dire que non seulement le livre devient un best-seller comme on n'en a pas vu beaucoup en France dans les 20 dernières années. Mais en plus, comment dirais-je, d'un seul coup, comme j'étais un écrivain complètement inconnu, mais comme je parle d'un sujet qui intéresse tout le monde, c'est-à-dire ben, la maladie, les rapports avec le médecin, ou et puis surtout beaucoup d'histoires de famille, parce que c'est un roman dans lequel il y a surtout beaucoup d'histoires de famille, beaucoup d'histoires de couple, beaucoup d'histoires de famille, de relations entre les parents et les enfants, etc. Là, on m'invite à parler non seulement de mon livre, mais on m'invite à parler du contenu du livre. C'est-à-dire que y a un de ces... Enfin, c'est pas un... Dans le temps, mon éditeur, Paul, disait « Au-dessus de 30 000 exemplaires, c'est un malentendu. » Bon, là, on est à 250 000 deux mois après le prix. Je me dis, et là, je suis très inquiet parce que je me dis c'est un gros, gros malentendu. Il y a des gens qui disent ouais, je comprends pas que... C'est Pénac qui me raconte ça, un critique qui lui dit « Je comprends pas que autant de gens lisent un bouquin aussi difficile. » Alors Pénac, il lui dit bah, « Si vous dites qu'il est difficile, c'est parce que vous l'avez pas lu. » Parce que c'est pas un livre difficile à lire du tout. Bon. Donc il y a quand même un malentendu, mais c'est pas avec le public qu'il y a un malentendu. Il y a un malentendu avec les gens qui parlent de littérature habituellement et qui ne comprennent pas d'abord qu'un livre de littérature écrit et publié par un éditeur qui publie de la littérature en principe expérimentale parle d'un sujet aussi trivial que le médecin de famille, et qu'en plus, un nombre de gens aussi considérable qui n'a pas l'habitude de lire ce type de livre, en tout cas le type de livre qui sont publiés par cet éditeur-là, le précédent grand succès de POL, deux ans avant, c'est Truisme, qui est un grand succès de librairie, mais qui est considéré comme un livre très, très intellectuel, avec des métaphores, etc., bon, dont on a parlé partout. C'est un peu le même genre de succès que quand Houellebecq publie, d'ailleurs la même année que La maladie de Sachs, quand il publie Les particules élémentaires, où c'est vraiment le grand succès littéraire, mais plus dans le, comment dirais-je, dans la mouvance des grands succès littéraires habituels, c'est-à-dire qui sont un peu adoubés par le milieu. Alors que La maladie de Sachs, d'où il sort ce type ? D'abord, il est médecin, il n'est pas parisien, il nous parle des histoires de patients dans une petite province perdue de la France. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? N'empêche que ça prend une ampleur très importante, et je me retrouve dans une situation qui est bizarre, c'est-à-dire que moi j'ai écrit un roman, mais on me demande de parler de la réalité. Et c'est là que le film a une importance qui est une importance, une grande importance pour moi. C'est que bon, Michel Deville a mis son film en production et il me dit « Heureusement, j'ai lu votre livre avant qu'il ait du succès, parce que s'il avait eu ce succès-là, j'aurais pas voulu l'adapter, parce que j'aurais pas voulu me mesurer, moi, cinéaste, à un tel succès un tel succès de littérature, de librairie. littérature, ça reste à voir, mais enfin de librairie. Et il s'est mis à chercher ses acteurs, il s'est mis à chercher les lieux où il va tourner, et il tourne à 40 km de chez moi. C'est-à-dire dans le Vendômois. Moi, j'étais dans la Sarthe, lui, il va tourner autour de Vendôme. Vendôme, c'est une petite ville de province qui ressemble beaucoup aux villes de l'ouest et du sud-ouest, de l'ouest et du centre, du centre-ouest, où pourrait se trouver le lieu du roman. Il trouve même un hôpital dans lequel il y a un étage désaffecté, parce qu'il y a des scènes qui se passent à l'hôpital qui va tourner là-dedans. Et puis, il choisit comme acteur, il choisit toute une flopée d'acteurs, y compris des acteurs pour des rôles muets, parce qu'il y a plein de rôles muets, des gens qui sont juste là. Il me dit, même pour un rôle muet, j'ai besoin d'acteurs qui ont de la présence, parce que je ne veux pas qu'ils soient juste là à rien faire. Je veux qu'ils aient une existence. Et c'est vrai qu'il y a plein de personnages qui ne disent rien, mais ils sont tous là. Quand on regarde le film, on se rend compte à quel point il a ce sens. Il prend plein d'acteurs qui sont des acteurs de théâtre, et non pas des acteurs de cinéma. Il y a des acteurs de cinéma, mais il prend aussi des acteurs de théâtre. Il choisit comme comédienne pour jouer le rôle de Pauline, une actrice de théâtre, qui s'appelle Valérie Dréville, qui est la fille d'ailleurs d'un autre cinéaste, qui était Jean Dréville, qui est un cinéaste plus âgé. Il choisit comme personnage, comme acteur pour incarner le personnage de Bruno Sachs, un acteur, un comédien et réalisateur français qui s'appelle Albert Dupontel, qui est surtout très connu pour un film qui s'appelle Bernie, qui est un film assez trash, assez dur, qui est un acteur très solide, mais aussi un acteur très exigeant, qui ne prend pas des rôles comme ça, qui fait toujours des films assez exigeants, assez mordants, assez noirs. Et là, il le met dans un rôle, il le met à contre-emploi, parce que d'habitude, il joue des rôles un peu excessifs, alors que dans La maladie de Sachs, il parle très peu, il est beaucoup dans l'écoute, il est assez réservé. De temps en temps, il s'énerve un peu, mais il se reprend. Et moi, je ne connais pas. Quand il me dit « j'ai choisi Albert Dupontel », je lui dis « je ne connais pas Dupontel ». J'en ai entendu parler parce que mes enfants ont vu Bernie en boucle, parce que c'est un film qui est très populaire dans le jeune public. Mais moi, je connais pas, j'ai pas vu jouer Dupontel, j'ai pas vu Bernie. Il me dit, mais regardez, Dupontel, il a fait un one-man show. Avant de faire du cinéma, il a fait un one-man show. Effectivement, c'est quelqu'un qui raconte très bien les histoires, qui a beaucoup de présence sur scène quand il raconte ses trucs. Je dis, très bien. Et puis, il m'énumère les acteurs. Il y en a que je connais, il y en a que je connais pas. Mais je suis comme un enfant dans un magasin de jouets, parce que tout est nouveau. Tout est nouveau. Je ne sais pas ce qu'il va faire. Je ne sais pas comment les acteurs vont incarner les personnages. Et puis moi, mes personnages, ils n'ont pas de visage, c'est des voix, c'est des gens qui parlent, c'est pas des gens qu'on regarde, qu'on décrit. Il y a très peu de descriptions dans mes romans. Je sais pas décrire les gens, je sais pas faire des descriptions à la Balzac où on connaît jusqu'au grain de beauté que le type il a sous le bras. Moi, je sais pas faire ça, et mes personnages, je les entends, je les vois pas, et donc je suis très impatient de voir ça. Et il va me donner une chance extraordinaire, enfin des occasions extraordinaires, c'est que comme il tourne à 40 km de chez moi, je vais aller 6 ou 7 fois sur le tournage, rencontrer les comédiens, et là il se passe un truc extraordinaire, c'est que le film est tourné dans le courant de l'année 99, le roman est sorti un an et demi avant, et sur le tournage, il y a les 3/4 des gens qui bossent sur le tournage qui ont lu le bouquin. Ce qui n'est pas anormal, c'est que c'est un super best-seller, tout le monde l'a offert à tout le monde, en particulier à Noël précédent, et il y en a plein qui ont lu le bouquin. Le preneur de son a lu le bouquin, les acteurs ont lu le bouquin, etc. Donc c'est une situation assez extraordinaire qui est qu'ils savent tous. Alors en plus, quand il est venu leur proposer de jouer tel ou tel personnage, je dis « Ah ouais, formidable, mais moi j'aimerais jouer tel autre, d'accord. » Donc il y a quelque chose qui est comme une sorte d'entreprise collective, assez remarquable, parce qu'en plus, évidemment, leur lecture du bouquin, c'est pas comme si on adaptait un bouquin qui a 30 ans. Leur lecture, elle est toute fraîche. Ils ont tous lu le bouquin quelques mois avant. Et donc, ils l'ont tous très bien en mémoire. Et il y a un enthousiasme, il y a une énergie dans ce tournage et je ne connais que ce tournage, il n'y a pas d'autres de mes bouquins qui a été adapté. Je suis pas allé sur d'autres tournages de façon aussi répétitive. Donc, pour moi, le cinéma, c'est une expérience merveilleuse parce que les gens qui font ce film, ils sont tous contents de faire le film. Et la première, premier jour que je vais sur le tournage, je vais à l'hôpital de Vendôme, où ils ont aménagé donc plusieurs salles dans un étage qui est un étage désaffecté pour servir. Alors, il y a le bureau d'une infirmière, et puis il y a une salle d'opération, il y a une chambre, etc. Et je monte l'escalier à l'hôpital de Vendôme, on me dit c'est au quatrième, je monte le quatrième et j'arrive sur le quatrième. Et là, il y a une équipe qui est prête à tourner parce qu'on va monter justement, on va tourner justement une scène dans laquelle Bruno Sachs arrive, monte l'escalier et parle à l'infirmière. Et je vois le bureau de l'infirmière et puis il y a une actrice dans le bureau de l'infirmière. Enfin, des techniciens qui sont en train d'installer les lumières dans le bureau de l'infirmière. Et je dis, ben, c'est vachement bien qu'ils vous aient laissé, vous installer dans le bureau d'une infirmière. Il me regarde, il me dit, mais non, c'est un décor. Ils avaient reconstitué entièrement le bureau d'une infirmière, à un endroit où d'ailleurs il n'y avait pas de bureau. Ils avaient monté une cloison, c'était une sorte de grande salle d'attente en bout de couloir avec des fenêtres au fond. Ils avaient monté une cloison pour en faire une sorte de bureau et ils avaient installé le bureau de l'infirmière entièrement à l'intérieur, et quand j'étais dedans, j'étais dans le bureau d'une infirmière. Et je n'avais pas vu que c'était un décor. Et ça, c'est stupéfiant, parce que je sais ce que c'est qu'un bureau d'infirmière. Il y avait tout. Il y avait tout. Il y avait le chariot avec les dossiers, il y avait les instruments, il y avait absolument tout. Je dis non, c'est juste un décor, ça va disparaître dès qu'on s'en va. Et vous vous dites après, quel boulot. Regarde, quand vous regardez... je ne sais plus quel film j'ai regardé l'autre jour où il y avait une scène qui se passait entièrement dans une sorte de hall de gare, etc. Et je sais pertinemment que ce n'est pas une vraie gare. Vous vous dites, et ça dure 3 minutes et demie. Vous vous dites, le travail qu'il faut pour faire 3 minutes et demie d'histoire, enfin, c'est insensé. Là, je prends conscience que je ne suis absolument pas fait pour faire du cinéma parce que moi, ça me dépasse complètement. Et que je pourrais juste pas concevoir ça tellement c'est compliqué. Je trouve que c'est beaucoup plus reposant d'écrire de romans parce qu'on a besoin que de soi-même. Alors que faire du cinéma, il faut 100 personnes. Pour un film, il faut 100, 150, 200 personnes. Bon, et puis c'est la première scène. On va tourner la première scène du film. C'est vraiment le coup d'envoi. Et c'est une scène donc dans laquelle Bruno arrive à l'hôpital pour faire ses IVG et il monte l'escalier. Il passe la tête par la porte du bureau de l'infirmière et puis il dit « Pardon, Madame Pujade, je suis en retard. Combien il y a d'IVG aujourd'hui ?» Et puis elle lui répond « Il y en a 3 et puis tu as 2 consultations après. » Une scène très simple qui dure très peu de temps. Et on se met tous dans le couloir adjacent, parce que dans le couloir adjacent, il y a le preneur de son, il y a la caméra, etc. Lui, il monte l'escalier comme ça et on le voit de profil. On m'a dit que Albert Dupontel était dans une chambre à côté, il se reposait. Je vais le voir, je lui serre la main, je me présente. Il me dit « Ah, c'est vous qui avez écrit le bouquin ?» Ouais, ouais. Il me dit « Ça va vous faire rigoler, mais avant d'être comédien, j'ai fait 5 ans de médecine. » Alors je lui dis, oui effectivement, je ne savais pas. Je lui dis, mais pourquoi vous n'avez pas continué ? Il me dit, parce qu'en cinquième année, je me suis frité avec un interne que je trouvais brutal avec une patiente. Et puis comme je lui ai tapé dessus, là, on m'a expulsé. Je me suis dit, c'est pas un métier pour moi, je suis parti. Je lui dis, ben, vous êtes fait pour le rôle alors. Et donc on s'installe. Et puis lui, il descend avec son sac, etc. Et il monte l'escalier. Et je vois filmer tout ça depuis... le couloir avec le... Et quand il monte l'escalier, il porte un duffel coat bleu marine. Or, jamais dans le roman, il n'est dit que Bruno porte un duffel coat bleu marine. Et moi, je l'ai toujours vu avec un duffel coat bleu marine. Pourquoi ? Parce que moi, je portais un duffel coat bleu marine quand je faisais mes visites. Parce que c'était ça que je trouvais le plus pratique, parce que j'avais les grandes poches, etc. Donc je suis complètement saisi et je vais voir Michel Deville. Je lui dis, mais jamais dans le livre il est écrit qu'il porte un duffel coat bleu. Il me dit non, mais c'est comme ça que je le voyais. Je dis bon, d'accord. Il y a plein de choses comme ça, dans la façon dont il parle, dans la façon dont il se tient. Alors que physiquement, c'était quelqu'un que je ne l'imaginais pas comme ça, parce qu'il a un physique très particulier, Dupontel. Mais la façon dont il se tient, la façon dont il parle, la façon dont il se comporte, c'est exactement comme je le voyais, moi. D'ailleurs, il y a des gens qui disent, oui, mais Dupontel, pourquoi ils ont choisi Dupontel? Il est plus petit que vous, il ne vous ressemble pas. Alors Dupontel, en général, répondait, oui, mais je suis plus beau. Je disais, c'est pour ça qu'ils l'ont choisi. Je disais, surtout, ils l'ont choisi lui, parce qu'il est meilleur acteur. Parce que moi, je n'aurais pas su jouer ça. Et donc, il y a une sorte de chimie très étrange qui se passe et qui en dit long sur les qualités de Michel Deville comme directeur d'acteurs et comme cinéaste qui choisit ses comédiens, parce qu'il les choisit extrêmement bien. Tous les rôles sont faits de façon extrêmement juste. J'ai rencontré plein d'acteurs, je suis allé à plusieurs scènes dans plusieurs endroits. Et le cabinet médical de Bruno Sachs est installé dans une ancienne école. Pourquoi ? Parce que moi, dans mon roman, dans ma réalité, j'ai projeté le Bruno Sachs dans mon ancien cabinet, qui était une ancienne école, qui était une grande salle de classe qu'on avait partagée en deux avec une cloison. Et pour tourner, ils ont trouvé une ancienne école. C'est-à-dire, ils l'ont mis dans un bâtiment qui est exactement la même chose. Un jour, par exemple, pour vous montrer à quel point j'étais quand même sollicité pour le tournage, un jour je vais sur le tournage et Dupontel me dit « Comment tu fais pour examiner les gens de telle et telle manière ?» Alors je dis « Mais tu dois te souvenir parce que tu as dû l'apprendre, toi. Donc comment tu fais ?» Alors il fait les gestes. Je dis « Bah c'est ça. » Il me dit « Mais j'étais pas sûr. » Je dis « Mais si, c'est ça. Fais-le. » Donc on travaille la scène ensemble comme si j'étais un peu le conseiller technique. Mais en fait, c'est pas vraiment un film médical, donc il avait pas vraiment besoin de conseils sur ce... Mais il avait envie de s'imprégner de ça. Et puis un autre jour, je reçois un coup de téléphone de l'assistant réalisateur qui me dit, voilà, Michel Deville aimerait savoir, quand Bruno Sachs rentre chez un patient, est-ce qu'il pose sa sacoche par terre ou sur la table? Alors, je réfléchis, je dis, ça dépend. S'il rentre, comme c'est le cas beaucoup à la campagne en France, s'il rentre par la pièce qui est aussi la cuisine, en général, dans les cuisines, sur la table de la cuisine, il y a une toile cirée. Donc, il peut poser sa sacoche sur la toile cirée. S'il rentre dans une salle à manger, il ne pose pas. Souvent, c'est des salles à manger avec des tables un peu anciennes ou bien des tables un peu, comment dirais-je, en bois assez tendre. Donc, il ne va pas poser sa sacoche sur la table. Il va la poser sur une chaise ou il va la poser par terre. Et puis un autre jour, il m'appelle, il me dit, on a un petit problème, c'est qu'on voudrait filmer dans le cabinet de Bruno Sachs, mais on ne sait pas ce qu'il y a comme livre dans un cabinet de médecin. Je dis ça, c'est pas compliqué. Donc j'ai pris plein de bouquins que j'avais chez moi, les précis d'anatomie, les trucs. Et puis on est allé. Et donc les livres qu'on voit dans le film, c'est les miens. Les livres qu'on voit dans le bureau de Bruno Sachs derrière lui, c'est mes bouquins. Donc là, voilà, il y a une sorte de... Je sais que le fait d'aller sur le tournage, les comédiens étaient très contents. Parce que justement, comme... pour la plupart, ils avaient lu le livre et qu'ils étaient extrêmement, ils se sentaient extrêmement heureux d'incarner les personnages dont ils venaient de prendre connaissance dans le roman, dans un roman qu'ils avaient beaucoup touché. Ils étaient aussi très curieux de savoir ce que l'auteur pouvait penser d'eux comme choix d'acteur, de la façon dont le personnage était incarné, etc. Et mine de rien, ce sont certains comédiens qui me l'ont dit après, mine de rien, ils étaient très heureux de me voir arriver. Et de dire, je suis content que ce film se fasse, je suis content que ce film se fasse comme ça, je suis content que ce film se fasse avec ce cinéaste, et je suis content que vous soyez dans ce film. Ça n'a l'air de rien, mais je pense que les comédiens, ils ont aussi besoin d'être encouragés dans ce qu'ils font et d'avoir le sentiment qu'ils sont justes. Et puis, toujours pour parler des comédiens, donc une fois que le film est tourné, Michel Deville fait une première projection sans toute la musique, parce que toute la musique n'avait pas été composée pour l'équipe du film. Et je me souviens que quand j'ai vu le film pour la première fois, j'ai éclaté de rire tout le temps. Il y a des moments très drôles. J'ai éclaté de rire parce qu'il y avait des moments très drôles, mais j'ai surtout éclaté de rire parce que j'étais heureux de voir mes personnages incarnés par des acteurs qui étaient tous extrêmement solides puis qui parlait plus vrai que nature. Enfin, c'était un rire de joie. Enfin, je ne sais pas comment vous dire. C'était vraiment un bon moment d'entendre. C'était presque. J'étais incrédule d'entendre ces gens dire des trucs que j'avais écrits, me dire ah bon, mais c'est moi qui ai écrit ça. Et puis le dire avec beaucoup de sérieux, comme si c'était la réalité, parce que c'est beaucoup plus vrai un film qu'un roman. Même si on a des capacités extraordinaires à rendre vrai ce que nous lisons, quand on voit des gens, quand on voit des personnages jouer, il y a une réalité qui s'impose à nous beaucoup plus qu'avec le texte écrit. Et la dernière anecdote que je voudrais raconter à propos des comédiens, c'est que je suis allé à, je sais pas, 15 présentations du film, parce que non seulement je suis allé à plusieurs avant-premières, mais en plus, je suis allé présenter le film dans plusieurs villes avec Michel Deville, avec Albert Dupontel, parce qu'on a fait une tournée assez importante. Et je vais à une des présentations dans un cinéma qui s'appelle le cinéma des cinéastes, qui est un cinéma dans lequel on fait les avant-premières de films, justement pour l'équipe technique qui n'a pas pu venir. En général, ça se fait en matinée pour que les gens puissent venir, justement. Et en descendant l'escalier, parce que c'est un cinéma en amphithéâtre, en descendant l'escalier, je passe à côté d'une comédienne qui s'appelle Martine Sarcey, qui est une comédienne qui était très, très connue, qui faisait beaucoup de télévision dans les années 60-70, qui est une comédienne de théâtre, qui est excellente comédienne, et qui joue un rôle important dans le film, qui est le rôle d'une vieille dame, qui s'appelle Madame Destouches. Et Madame Destouches a une relation compliquée avec son fils, qui est infirme. Elle a une relation compliquée un peu avec tout le monde, et c'est une dame qui est très dépressive, et qui a un ulcère de jambe qui ne guérit pas. Et Michel Deville a donc demandé à Martine Sarcey de jouer le rôle de Madame Destouches. Et Martine Sarcey avait lu le roman. Et elle, lisant le roman, elle embrasse Michel Deville en lui disant « Vous ne savez pas à quel point vous me faites plaisir, parce qu'on me demande toujours de jouer les grandes bourgeoises françaises et ça m'emmerde, parce qu'elle était très typée dans les années 60 pour jouer ça. Ça me casse les pieds complètement. Et là, pour une fois, je vais jouer quelque chose qui est complètement différent. » Donc je descends, moi je ne la connaissais pas, Martine Sarcey, je vois Martine Sarcey, je dis « Ah, comme je suis content de savoir que c'est vous qui avez joué Madame Destouches », et elle me dit « Je ne sais pas qui vous êtes », je dis « Excusez-moi, je suis l'auteur du livre ». Ah, elle me dit « Comme je suis contente, grâce à vous j'ai pu jouer un rôle formidable oui. ». Et c'était très émouvant, parce que moi, elle est décédée depuis, elle est décédée il y a quelques années. C'était déjà une dame très âgée, et moi je la regardais quand elle était jeune femme, j'étais gamin, je la regardais, c'était une comédienne que j'aimais beaucoup, parce qu'elle avait beaucoup d'humour, elle avait une sorte d'humour pince sans rire qui était délicieux, et elle jouait aussi bien des jeunes premières que des femmes un peu manipulatrices, etc. Donc c'était vraiment quelqu'un que j'aimais beaucoup, et j'étais heureux comme tout de l'avoir joué dans mon film. C'est devenu mon film quand même. Bon. Le film n'a pas eu la carrière au cinéma qu'il aurait pu avoir. C'était une année où le cinéma français ne marchait pas très bien. Et il n'a pas eu le succès qu'on escomptait. Il a eu un succès critique extraordinaire, à tel point qu'on parlait tellement du film en fin 1999 quand il est sorti, que les ventes du livre, le livre n'avait pas quitté les 20 premières meilleures ventes de livres pendant 7 ou 8 mois, et puis il était redescendu. Et quand le film est sorti, le livre est remonté dans les premières ventes, parce que les critiques étaient tellement dithyrambiques sur le film que les gens retournaient acheter le bouquin aussi. Malheureusement, ils ne sont pas allés voir le film. C'est dommage, parce qu'ils le méritaient vraiment. C'est un film qui a beaucoup, beaucoup été diffusé à la télévision française, parce que et qui a toujours des critiques tout à fait remarquables. Curieusement, il n'a pas fait l'objet d'une sortie vidéo avant, il y a quelques années, quand on a fait une sorte de semi-intégrale des films de Michel Deville, il y a 4 très beaux coffrets avec 25 films, je crois. Il a dû en faire 30 ou 32, mais ils en ont repris 25. Et il est d'ailleurs dans le même coffret que le dossier 51, ce qui me fait très plaisir. Moi, j'ai les 4 coffrets à la maison, évidemment, on me les a offerts. Dans le DVD du film, il y a aussi une interview, une longue interview de moi, où je raconte à peu près ce que je vous ai raconté là. et une interview d'Albert Dupontel pour lui faire parler justement du film vu de l'intérieur en tant qu'acteur. C'est un film qui, c'est un très beau film qui dure 1h40, qui est très fidèle à mon avis à l'esprit du livre, c'est-à-dire à l'esprit des relations que le médecin et les patients établissent l'un avec l'autre, et qui apporte donc, comme je vous l'ai dit, une dimension supplémentaire à cause de l'histoire d'amour, l'histoire relationnelle qu'il y a dans qu'il y a entre Bruno et Pauline. Et je voudrais terminer en disant ceci, après si je peux répondre à des questions sur le film, je serais heureux de le faire. Je voudrais terminer en disant ceci, un de mes petits copains écrivains, un jour, me dit « Toi, faudrait te tuer ». Je dis « Bon, d'accord ». Il me dit ça gentiment, mais il me dit « Faudrait tuer ». Je dis « Pourquoi ?» Il me dit « T'as écrit un bon bouquin, c'est un best-seller, et le film est réussi, c'est dégueulasse ».